Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'émission où vous avez la parole sur Africa Radio pour réagir et commenter l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est donc la libre antenne dans le journal des auditeurs. C'est vous qui faites le sommaire. Nous reviendrons sur la situation sécuritaire au Sahel. Nous parlerons également football. Et certains d'entre vous veulent revenir sur la situation au Tchad. Pour participer, nous parler du sujet de votre choix, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Mais avant cela, nous ouvrons cette émission avec le répondeur du JDA.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, c'est Monsieur Touré. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à l'Union africaine, parce que cette cacophonie qu'on remarque sur le problème au Tchad, ça ne doit pas nous surprendre, parce que franchement, on a une institution comme l'Union africaine qui ne règle pas du tout le problème des Africains. Et c'est pas étonnant, parce que la plupart des pays membres où il n'y a pas de démocratie dans ces pays. Franchement, parmi les 55 pays de l'Union africaine, il n'y a même pas une quinzaine de pays ou 10 où on pratique vraiment la démocratie, où il y a des alternances, des élections libres et transparentes. La plupart de ces dirigeants, ils ont leur gomme avec leur crayon. Et tout patouille leur constitution à leur guise. Donc, ce n'est pas des gens comme ça qui pourront régler un problème de respecter un problème de droit et de constitution. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils règlent le problème du Tchad en mettant en œuvre les sanctions prévues dans ces cas de figure. Par l'Union africaine.
Oui, cher ami du JDA et Madame Hartmann, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport à une émission d'aujourd'hui qui concerne l'état de siège. J'espère en tout état de cause que cet état de siège va ramener la paix. De toute façon, nous en parlerons dans un mois. Voici ma modeste contribution pour l'émission d'aujourd'hui. Bien des choses à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Dieu donne Kassongo. À très bientôt. Au revoir.
Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. J'avais dit pas si longtemps que les exilés pro-Gbagbo seront jugés par rapport à leur comportement. Eh bien, le temps m'a donné raison. On dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Monsieur Damanan Picasso a pris la parole devant des joueurs de dames. Excusez-moi, l'expression vient de Simone Gbagbo elle-même, qui traite les militants traditionnel de son mari, de joueur de dames. Eh bien, Damanan Picasso, qui a tenu des propos qui fâchent, lorsqu'il dit et qu'il persiste qu'ils ont gagné les élections en 2006, j'ai dit, mais M. Damanan Picasso, c'est de la provocation. Mais je voudrais dire à M. Damanan Picasso que les temps ont changé. Ils n'ont plus l'armée avec eux, ils n'ont plus les miliciens avec eux, ils n'ont plus les escadrons de la mort avec eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays moderne et démocratique. C'est la raison même pour laquelle que Damanan Picasso tient de tels propos sans être inquiété. Je dis encore merci au président Alassane Ouattara. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour, bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux les jeunes du RHDP, la plupart, principalement les jeunes du nord de la Côte d'Ivoire, se plaindre parce qu'on casse leurs habitations, parce qu'on casse leurs garages pour vendre les terrains, soi-disant à des entreprises étrangères. Ils se plaignent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est eux qui disent, mais nous avons fait la guerre pour toi, Dramane Ouattara, nous avons tout donné pour toi, voilà comment tu nous remercies aujourd'hui. Ils sont déçus. Mais j'ai presque envie de leur dire une chose, chers amis. On vous a parlé, vous n'avez pas voulu écouter. Eh bien, ce qui vous arrive aujourd'hui, ça vous apprendra. Demain, quand on vous dira ne prenez pas les armes contre vos frères, eh bien j'espère que vous réfléchirez à deux fois. Bon courage à tous, bonne journée, au revoir.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le JDA. C'est la libre antenne. C'est... Vous pouvez vous exprimer sur le sujet de votre choix. 33 1 55 07 58 00 pour participer. Dans un instant, on reviendra sur le football avec Thierno. Avant ça, on accueille Charles. Charles, bonjour à Ouagadougou.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Charles, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez revenir, vous, aujourd'hui, hein, à l'occasion de la libre antenne sur la situation sécuritaire au Sahel, dans l'Est, hein, à Codiel, hein, dans l'Est de Burkina Faso. Il y a une attaque, hein, au moins 30 civils ont été tués, uniquement des hommes. Les autorités, hein, évoquent des représailles des djihadistes. Ça vous inquiète, cette situation, Charles ?
Oui, vraiment, ça m'inquiète. Ça fait 5 ans que nous sommes là, mais il n'y a aucun résultat. Mais nous avons fait une première approche, c'est-à-dire l'approche militaire. Jusqu'à présent, ça n'a pas donné. Et si on partait sur l'autre approche, c'est-à-dire négocier avec les terroristes, je crois que nous allons aboutir à la paix. Parce qu'entre-temps, il y avait de l'accalmie au pays. Parce qu'il y a eu des négociations, même des libérations. Et si on passait par ça, et donner aux djihadistes ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, ce qui est négociable. Je ne vais pas rentrer dans ce qui est négociable. Et si on négociait, on les donnait ça, peut-être on allait quitter dans des morts inutiles. Actuellement, au Niger, au Burkina, au Mali, il n'y a que des morts. Malgré le nombre de soldats que nous avons, malgré les moyens que les États mettent dans cette guerre, mais malgré tout ça, il n'y a pas la paix. Bon, moi je suis contre. Moi, je ne suis pas ceux qui s'assoient à Niamey, à Ouaga, à Bamako et autres pour dire qu'on ne négocie pas avec les djihadistes. Pourquoi on ne va pas négocier? Pendant 5 ans, sur 3 pays, c'est-à-dire même G5, c'est-à-dire 5 pays contre des personnes, peut-être c'est des centaines de personnes, on n'arrive pas à réadiquer ça. Passons par le dialogue. Moi, je n'ai pas honte de dialoguer. Si c'est pour aboutir à la paix, il n'y a pas la honte. Seulement, nous voulons quitter dans ça. Actuellement, un Burkinabé ne peut pas prendre la voie de Djibou. Dans ton propre pays, tu es limité. Dans ton propre pays, tu es et réfugié. Dans ton propre pays, tu peux pas aller là où tu veux. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Moi, je demande à nos autorités, si j'écoute cette émission, de passer au dialogue.
Au dialogue. On a vu, Charles, on a vu au Mali, hein, le Haut Conseil islamique, hein, a entrepris des négociations avec notamment, hein, donc les djihadistes, hein, et les habitants, hein, dans le cercle de Niono. Un accord de cessez-le-feu, hein, a été signé. Est-ce que vous voudriez voir ce même type d'accord au Burkina, c'est ça?
Oui, moi je veux ça. Puisque si on laissait même cette affaire même dans la main des populations, actuellement même, on n'aurait plus parlé du terrorisme. Parce que dans nos régions, c'est les chefs du village et les coutumiers qui savent qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai l'impression même que nos dirigeants, tant que Ouagadougou est sécurisé, ils se croient qu'ils sont à l'abri. C'est ça qui est énervant dans cette situation. Et moi, je préfère que ce que les Maliens ont fait, que les Burkinabés fassent ça, pour que nous quittons dans ça, pour que un Burkinabé puisse se promener là où il veut, voilà, pour qu'on évite les morts inutiles. Parce que tout le monde, depuis 2016 jusqu'à présent, 5 ans, on n'arrive pas à éradiquer une centaine de personnes. C'est grave. Donc, nous devons partir sur le plan dialogue. Maintenant, dialogue, celui qui ne veut pas, tous ceux qui sont contre, voilà, qu'ils prennent les armes, aller au front. Là, ils vont aller monter de quoi ils sont capables. Mais nous, voilà, moi, en tout cas, moi, je veux des dialogues. Voilà, pour qu'on nous quitte les armes. Puis, j'ai compris des armes. Il y a certains Burkinabés qui sont dedans. C'est-à-dire, il y a des Burkinabés qui sont filtrés contre les États. Maintenant, nous pouvons regarder pourquoi ces jeunes ont pris des armes. Il y a le chômage. Voilà, il y a certaines régions qui sont délaissées. Avant, il y a des anecdotes. Avant, tout client fonctionnait, on t'a fait ton nom. C'est pour te plier, c'est pour dire que la région même était délaissée. Maintenant, s'il y a des solutions, on peut investir dans la région, essayer de négocier. On négocie en même temps, on investit. Au lieu de s'asseoir avec des gardes-corps, et quand ils les voient passer, ils ont des gardes-corps partout. Mais et la population qui se trouve au nord dans le Sahel, ils n'ont pas de gardes-corps.
Merci,
même
Charles. On entend bien aussi que vous dénoncez aussi hein, peut-être l'inaction hein, des autorités un peu coupées hein, des réalités du terrain. Alors, on a reçu un appel du Mali sur WhatsApp. Normalement, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour. Bonjour
à toute la rédaction des journaux d'Afrique, c'est Gérard Kanyoumé.
Ah, c'est Kanyoumé, bonjour. D'habitude, on vous appelle. Alors, j'espère que la ligne va être bonne, Kanyoumé, depuis Sonin Kenny. Alors, vous avez appelé, est-ce que vous pouvez peut-être réagir au propos de Charles qui saluait les accords, l'accord au Mali entre djihadistes et population?
Oui, effectivement, je pense. Parce que
alors Kanyoumé, je suis désolé.
Point de vue, mais Kanyoumé, aussi, à mon avis, je pense que vraiment affaire des terroristes.
La ligne n'est pas très bonne, Kanyoumé. Ce que je vous propose d'habitude, on passe par téléphone. Kanyoumé, je vais raccrocher et Leïla va vous rappeler sur la ligne GSM. Hein, ce sera à mon avis. Plus audible, on va reprendre Kanyoumé dans quelques instants. Avant ça, on se dirige. Excusez-moi, je vais couper le téléphone. On se dirige à Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Madame Atman, bonjour aux auditeurs de
GDA. Bonjour Tierno, vous voulez parler du report hein, des matchs qualificatoires hein, pour la Coupe du Monde, Zone Afrique. Report notamment suite à l'absence hein, de stade homologué, j'ai envie de dire, hein, par la CAF dans plusieurs pays, dont la Centrafrique, le Mali et le Sénégal.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, le football aussi, c'est notre préféré. C'est le secteur qui reste maintenant que les opinions sans attendre des critiques. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile à supporter pour les fans du football. Quand des grandes nations comme le Mali, le Sénégal, le Niger, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie. Donc c'est l'Afrique de l'Est, cette fois-ci, sept pays, on ne peut pas jouer sur leur terrain parce qu'il n'y a pas eu l'homologuement comme le cas en Guinée. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Il faut que les dirigeants et les fédérations acceptent de travailler. Mais très malheureusement, tout le monde aime le football, tout le monde aime le football, mais les dirigeants, pour être vrai, ils n'ont pas de volonté nécessaire pour mettre notre football en valeur. Sinon, on ne peut pas accepter que tout un pays ne puisse pas avoir un stade de football. C'est pas quelque chose que... Il y a d'autres pays africains qui ont plus de 7 stades. Et au Maghreb, n'a pas eu ce problème. Hein? Maghreb plus l'Égypte, il n'y a pas eu ce problème. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, on pensait que le Sénégal, le Mali... Non, c'était... Lorsque je vis la liste, j'étais tellement surpris parce que j'avais aussi peur pour mon pays, pour la Guinée. Parce que depuis plus de 50 ans, on avait que le fameux stade de 28 septembre. Mais grâce au fait que ça a compté avec les partenaires chinois, on a un stade maintenant dénommé Général Ansara Conté de Nongo, qui a 50 000 places, qui a été enfin validé par la CAF. La Guinée pourra jouer ici pour les qualifs, mais je pense que les États africains doivent investir dans le football. C'est quelque chose qui est très important pour l'avenir. L'Afrique est devenue aujourd'hui des grandes nations du football. Nous avons des footballeurs qui font notre fierté de partout à travers les championnats, les ligues de champions. Dans les compétitions, quand tu vois les jeunes footballeurs africains jouer au football, tu vas croire, tu vas penser automatiquement que le football a été inventé en Afrique tellement qu'ils ont du talent. Mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Si nous avions des centres, académies et autres, comme les autres nations européennes, l'Afrique serait plusieurs fois champion du monde. Ça, je vous le dis, Madame Antman. Parce que vous voyez des jeunes qui jouent dans les rues de Conakry ici, à Léger, en Fort Brique, Santiago Bernabéu, comme si c'est là qu'ils ont été formés. Vous avez vu la prestation historique de N'Golo Kanté. C'est quelque chose que les Africains doivent aimer. Parce que c'est des gens qui ont des motivations. Nous avons des talents. Il faut espérer, il faut investir dans le secteur du football. Il ne faut pas qu'on accepte que l'Afrique soit encore humiliée. Comment est-ce que possible? 54 et 24 sur 54 ne peuvent pas jouer dans leurs stades. C'est désolant, c'est révoltant parce que c'est le football qui unit en Afrique. Je disais récemment avec un ami que proche de la mouvance, lorsqu'on parlait des prestations de la FIMI lors de la CHAN au Cameroun récemment, je dis c'est le seul secteur là où notre pays est classé troisième en Afrique. Il n'y en a pas, à part du football. Dans les autres secteurs, nous sommes 12e, 20e, 40e. C'est le seul football qui règne. Il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas l'ethnocentrisme, il n'y a pas le régionalisme dans le football. Il faut investir dans le football
rassemble souvent, d'ailleurs. Hein, je crois qu'une équipe de football est l'une des caractéristiques d'une nation. Thierno, merci beaucoup. Ce que je retiens de votre intervention, surtout ce que vous dites, c'est finalement l'absence de stade homologué. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, tiens. L'absence de stade homologué, finalement, ne résulte que de l'absence d'une volonté politique et une volonté. L'absence de politique sportive, et de politique footballistique, précisément. 33 1 55 07 58 00. On va parler maintenant du Tchad avec Eric. Eric, bonjour.
Oui, bonjour, madame Atman.
Bonjour, monsieur Eric. Vous voulez revenir sur le Tchad, la coalition. Alors, la coalition, c'est peut-être le gouvernement de transition que vous vouliez évoquer, peut-être
Pas que le gouvernement de transition. Moi, je voulais apporter mon soutien aux opposants qui continuent à marcher parce que, voyez-vous, nous autres Africains, nous sommes toujours en train de regarder du côté des Occidentaux et comprendre qu'est-ce qu'ils font avant que certaines choses fonctionnent chez eux. Et vous savez, lorsqu'on s'assoit, on édite des règles. Ces règles doivent régir nos vies quotidiennes. Depuis un certain temps, c'est comme si on est déjà passé aux aveux que le fils Déby est un président. Mais sauf que c'est un président illégitime, qui n'a pas le droit de rester au siège où il est resté. Et j'insiste toujours, je dis, M. Kizerbo vient de montrer aujourd'hui aux yeux du monde et des Tchadiens que lui, il a préféré, lui, se servir que de servir le peuple tchadien. J'ai une pensée pieuse pour les personnes qui ont été tuées pendant la marche. Et je dis encore bien, il va falloir que nous puissions respecter la Constitution. C'est un devoir. C'est un devoir parce que regardez un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Je reviens toujours, je fais toujours la comparaison. Chez les anglo-saxons, ils pensent toujours à la communauté. Chez nous, les francophones, on pense toujours à l'individualisme. Et voilà un fait qui est palpable. Il y a un président qui décède. Il y a des règles qui sont éditées, qui sont acceptées ou pas par tous, mais qui doivent faire preuve maintenant d'application. Sauf que nous ne sommes pas là, madame. Et ça fait en sorte que on est toujours en train de recommencer. C'est comme si peut-être le Tchad, il ne s'est rien passé au Tchad et que nous devions fermer les yeux. Moi, je veux que vous essayez de parler de ça, parce qu'on dénonce que des choses comme ça ne se passent plus dans nos pays africains francophones. Et je voulais rebondir sur l'auditeur précédent qui a parlé des pays comme le Sénégal, le Niger, qui n'avaient pas de stade homologué. Vraiment, je voulais vous demander pourquoi la FIFA ne les suspend pas directement de la compétition jusqu'à ce qu'ils aient un stade, au moins, ou même deux, homologués pour pouvoir accueillir des compétitions. Voyez-vous, c'est une honte. Quand je regarde aujourd'hui un footballeur comme Sadio Mané, qui est en train de faire la fierté, qui a fait la fierté de l'Afrique, qui ne peut pas recevoir un match de football parce qu'il n'y a pas un seul stade dans un pays de 21 millions d'habitants, ça donne raison à M. Infantino qui peut se permettre de venir rencontrer les différents présidents de nos pays et imposer qui il veut. Imaginez-vous que si le Tchad, le Sénégal, le Niger, la Centrafrique avaient un stade. On ne se servirait pas de ça comme levier de menace. Or, aujourd'hui, on peut demander au président de la fédération, est-ce que tu votes pour moi ou tu ne votes pas? Parce que sinon, je vais te suspendre demain. Ça va faire en sorte qu'on repousse les échéances, en fait, par rapport à ce genre de situation. Il va falloir qu'on arrête d'être laxiste et qu'on applique les choses et qu'on se dise que nous sommes en train de vivre une situation, un temps moderne, et qu'on doit s'y adapter. Si les pays ne sont pas qualifiés, qu'on les mette dehors, tout simplement, madame. Tout simplement.
C'est très clair. Merci Eric de votre contribution à cette libre antenne. Bonne journée à vous. Il nous reste quelques minutes, Jean Daruna, de patienter un petit peu. On va écouter Diaby qui va revenir sur les journalistes au Mali. Bonjour Diaby.
Bonjour Tiffany. Vous allez bien?
Ça va très bien et vous-même Diaby?
Non mais actuellement Tiffany au Mali ça ne va pas du tout.
Ah oui.
Parce qu'aucun journaliste ne peut parler aujourd'hui au Mali, on vous arrête. Donc moi, ce que je demande aux autorités maliennes qui sont là, les consuls du Mali, ils m'entendent très bien parce qu'à chaque fois, ils disent c'est Monsieur Diaby qui parle. Vous entendez très bien, c'est Monsieur Diaby qui parle. Les consuls du Mali, l'ambassade du Mali, vous voyez ce qui est en train de passer dans notre pays. Il faut dénoncer. Donc je demande à tous les Maliens, j'ai fait un appel à tous les Maliens, hommes comme des femmes, de sortir après les ramadans, de sortir comme un seul homme. Vraiment de sortir massivement.
Vous pensez à un cas spécifique de journaliste arrêté dernièrement
Non, Diaby. Hier soir, Stéphanie, ça fait au moins aujourd'hui, cette semaine, ils ont arrêté au moins 7 personnes. Mm. Des journalistes qui viennent, Razbat a été arrêté hier soir à minuit.
Razbat est de nouveau arrêté.
Et ils nous ont arrêté hier soir à minuit, ils sont à 19h, c'est pas vrai, parce qu'ils ont convoqué à 19h. On peut envoyer une convocation à quelqu'un à 19h, mais moi, je suis pas même avis que lui, parce que Razbat, on a dit, demandez à Razbat de venir de soutien à Bamako pour qu'on fait des coups d'État. Parce que coup d'État, on a ensemble coup d'État. Moi, je ne dis pas que c'est le peuple, c'est un coup d'État qu'on a fait. On a demandé à Rasta de venir. Rasta, elle a dit que je ne consomme pas les coups d'État. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lui qui retrouve, les journalistes qui se retrouvent aujourd'hui, qui n'ont pas voulu consommer les coups d'État, et qui aujourd'hui, les militaires, ils arrêtent. Et les militaires, on est dans le front. C'est CDAO qui nous a trahis. Oh non, le peuple nous a trahis. Diko nous a trahis. CDAO nous a trahis, le peuple malien. On ne sait pas d'où on va, Stéphanie, aujourd'hui, au Mali.
Où va le Mali? Merci beaucoup Diaby, beaucoup d'inquiétude. D'ailleurs, il y a eu une rencontre hier entre le président de la transition, Bandao, et Choguel Maïga, notamment, et d'autres représentants du M5 RFP. Choguel Maïga, notamment, demandé que le gouvernement de transition et que le CNT soit revu, reformé pour être plus représentatif. Et Choguel Maïga a évoqué aussi la question du patrimoine et de la lutte contre la corruption. On continue à parler, peut-être pas du Mali, en tout cas, du Sahel avec Haruna. Haruna, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs.
Bonjour Haruna, vous êtes en Allemagne, à Munich si je me rappelle bien, non?
Non, je suis à Francfort.
Francfort, pardon.
Ouais.
Merci de nous accueillir à Francfort, Haruna. Problème de terrorisme au Sahel, on évoquait tout à l'heure avec Charles cette question et notamment les signatures d'accords locaux entre djihadistes et population. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vraiment, Stéphanie, moi, je suis totalement opposé aux idées de M. Charles. Vous savez, Stéphanie, on ne négocie pas avec des terroristes. Si on commence à négocier avec des terroristes, le terrorisme ne va jamais finir en Afrique. C'est-à-dire que
est-ce qu'on peut dire, selon vous, ces accords locaux entre djihadistes et population, où, pour le coup, au Mali, c'était avec la milice d'Ozo, il me semble, d'Anan Bassagou, affaiblissent un peu plus les États?
Et tout à fait, tout à fait. Et puis, ces gens-là, n'importe qui peut aujourd'hui créer un groupe de terrorisme ou bien de n'importe quoi pour faire la pression sur l'État. Ça va devenir un business. Et le terrorisme ne va jamais finir. Ils vont attaquer les gens, on va les emprisonner, ils vont exiger qu'on leur donne leurs prisonniers, et ça va toujours continuer à tourner au rond, Stéphanie. Vous voyez? Donc, moi, je
Vous comprenez aussi Charles qui dit, en même temps, ces populations, elles sont livrées à elles-mêmes, personne ne les défend, il faut bien aussi peut-être assurer leur sécurité, est-ce qu'il y a une sorte de pragmatisme peut-être, non?
Peut-être, moi je pense que c'est à la population de monter la pression sur les États. Voyez, non, de monter la pression sur les États. Bon, moi je voudrais juste donner dire quelque chose que j'ai entendu d'un militaire vraiment qui a anonymement causé avec moi, qui me disait que le terrorisme c'est un problème de politique. Si la politique décide aujourd'hui de mettre fin au terrorisme, nous allons mettre fin au terrorisme en une journée. vous voyez comment ces gens-là se promènent, ils font des vidéos avec la population, ils sont là sur des motos pendant des heures, ils sont là, on ne peut pas les repérer.
Merci, Haruna.
Ouais,
on entend bien.
Donc, la pression doit être montée sur les États pour dire que ça suffit, on ne peut pas. Mais négocier avec le terrorisme ne finira jamais en Afrique.
On entend bien, Haruna. Merci beaucoup, Haruna. Bonne journée à Francfort, en Allemagne. Pour finir, Ina. Ina, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie.
Bonjour, Ina. Bienvenue dans le JDA. Vous voulez parler peut-être du terrorisme aussi dans le Sahel. Vous êtes d'accord avec Haruna?
On discute dans le Sahel, surtout, je me réjouis à M. Haruna. Et ce qu'il a dit, c'est parfait. Il a raison. On ne négocie pas avec les djihadistes. Et moi, je pense aussi, ceux qui négocient avec eux, ceux qui sont avec eux. Pour moi, c'est mon avis.
C'est une forme de complicité, en fait.
Ils sont en complicité avec eux. Parce que vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, comme je l'ai toujours dit, l'islam a trop dominé l'Afrique de l'Ouest. Et tous nos gens-là qui vous voyez, on dit les imams ou les trucs, là, ils sont tous avec les djihadistes, avec ces terroristes-là. Ils sont en complicité avec eux. Hein. Ils se connaissent, ils s'appellent au téléphone, ils discutent bien. Ils sont en complicité avec eux. C'est avec ces gens-là même qu'il faut finir. Vous voyez les Diko, les Mayu Ouattara, Aïdara, ils sont tous pareils.
Peut-être diminuer l'influence du religieux, si je vous comprends bien, Ina. Ina, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci à tous d'ailleurs de votre participation. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages sur notre compte WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs ou encore, bien sûr, le répondeur d'Africa Radio. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, coup de cœur, coup de gueule sur l'actualité. N'hésitez pas, vos messages sont diffusés chaque jour en début de JDA. Le numéro du répondeur, surtout, c'est le 33 1 55 07 58 05, 33 1 55 07 58 05. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'Africa Radio. Et puis surtout, prenez soin de vous.